l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.
Bonjour, bonsoir Laurent, Dominique.
Bonjour Alain.
Serge Chambon qui est toujours, non pas alité, mais qui ne peut pas venir parce qu'il ne peut pas conduire. Il a eu un petit accident, pas quelque chose de méchant, mais on lui souhaite un prompt rétablissement. Et donc on aura aujourd'hui encore la présence de Dominique, qu'on accueille toujours avec plaisir. Alors aujourd'hui, de toute façon, je passerai tout à l'heure la parole à Dominique, mais on va commencer par une annonce. Comme chaque année, on organise au mois de mars un concert de deux auteurs-compositeurs-interprètes féminines, toujours une Française, une Italienne. Et cette année, ce concert aura lieu le samedi 12 mars à 20h à la salle, je crois qu'on dit la maison du département maintenant, qui est la salle du conseil général, proche donc du parc des Lilates. Cette année, nous avons invité deux chanteuses, Monique Tréhard, la Française, donc, qui vient de Haute-Savoie, et Jua, qui est une jeune chanteuse qui vient de Gênes. C'est un spectacle intéressant à divers titres, déjà parce que ce sont deux personnes de grand talent, deux générations, deux langues. Monique Tréhard, c'est une femme qui a été d'abord interprète, puis auteur, compositeur, interprète, qui a été formée au cabaret Rive Gauche, qui se décrit volontiers comme une chanteuse populaire. Alors, on compte plus ses passages sur scène, elle a plus de 2000, elle a 700 chansons interprétées, 11 disques, enfin, quelqu'un, disons, qui a déjà beaucoup roulé sa bosse. On va l'entendre, il n'y a rien de mieux qu'entendre une chanteuse quand on en parle. On va l'entendre dans un morceau qui s'appelle « Les sous-bois ».
Les oiseaux volent en farandole dans le ciel bleu. Le vent soulève ta jupe folle, au nom de Dieu. Viens sous les arbres, il y a de l'ombre où il fait beau. Des îles d'ombre, de vert tendre pour être heureux. Des îles où il fait bon s'étendre un peu à deux. Regarde, un papillon s'est posé sur ton sein. Juste à la pointe, il batifole le coquin. Ah, permets-moi de le cueillir entre mes mains. En cette cage, comme il palpite, je le sens bien. Comme ton cœur qui s'affole sous ma main. Les arbres lancent leurs arcades pleines d'oiseaux. La lumière coule comme en cascade de là-haut. Une fourmi part en voyage le long de toi. Dis, laisse-moi la suivre un peu du bout des doigts. Laisse mes doigts courir un peu le long de toi. Les feuilles font un grand vitrail. Tout là-haut, ta jupe tombe sur la mousse, puis ton maillot. Voilà que les oiseaux se taisent et moi s'envoient en cette église de feuillage comme il se doit. Tombe à genoux, ma belle idole, auprès de moi, tel un maïol, un beau renoir là, devant moi.
Monique Tréhard, donc, qui sera accompagnée au violoncelle par Cécile Perrault, qui est enseignante au Conservatoire de Bellegarde et qui est aussi à l'aise dans la musique contemporaine que dans la musique baroque. Là, l'autre, donc, chanteuse, c'est Jua. Jua, c'est une jeune guitariste, auteur, compositeur, interprète, peintre. Elle intervient aussi dans le milieu du théâtre. Alors, elle a commencé par interpréter les grands de la chanson italienne, Fabrizio De André, Giorgio Gaber, Francesco De Gregori. Et puis, elle a écrit, elle compose maintenant aussi sa musique et interprète ses propres chansons. Elle a eu déjà, malgré son jeune âge, pas mal de prix. Et elle en est à son 4e album qui va sortir là dans les jours qui viennent et dont on aura la primeur à Bourgoin. Son album s'appelle E Improvisamente et elle sera accompagnée par Stefano Cabrera qui est un très bon musicien de jazz de Gênes lui aussi, qui est diplômé du conservatoire de Gênes et qui est collaboré avec les violoncellistes de la Scala à Milan. Et donc, Giua, que nous aurons le plaisir donc de présenter avec Monique Tréhard. Pour toute information, vous pouvez adresser à inis@alice.fr ou par téléphone au 07 86 62 29 77. 07 86 62 29 77. Et en lien aussi donc avec Couleur FM 97.1. Et on va écouter Giua dans une chanson qui s'appelle Popcorn. Voilà, alors Dominique, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un événement qui n'est pas très vieux, hein, qui date de la fin d'année, et qui s'est déroulé à la librairie Majolir. Donc je te passe la parole, puisque c'est toi qui avais animé cette table ronde à la librairie.
Oui, ce jour-là, l'INIS et la librairie donc avaient convié deux éditeurs, un éditeur italien piémontais, Tabor Edizioni, et puis un éditeur français, grenoblois, Le Monde à l'envers. Ils les avaient conviés pour qu'ils échangent sur... ce sont deux éditeurs alternatifs, donc ils échangent sur les problématiques propres à ce genre d'édition. Et bien sûr, on les a fait parler tous les deux de leurs engagements respectifs. Ça a été un échange très intéressant. Donc, eh bien, je propose qu'on les écoute.
Bien sûr.
Très bien, on va commencer cette table ronde, si vous voulez, en demandant à nos amis italiens de nous présenter leur activité principale. Il y en a peut-être une autre derrière.
C'est tout. L'edizione Tabor nascono un paio d'anni fa, nel 2013, in Valle di Susa.
Donc les éditions Tabor sont nées il y a deux ans dans le Val de Suse.
Et c'è subito da dire che appunto un'attività non è un lavoro, diciamo, è un'attività che senza scopo di profitto, di lucro, ma semplicemente un lavoro, diciamo, di tipo culturale.
Alors, c'est une activité un peu particulière, c'est un travail sans objectif de profit.
È una, diciamo, un'attività culturale che è nata all'interno del territorio della Val Susa dove viviamo e in particolare nella situazione di lotta e di conflitto che si è creato in Val di Susa contre le train à haute vitesse.
Alors c'est une activité qui se déroule dans le Val Suse et qui a démarré dans l'opposition au train à grande vitesse.
Il appunto l'opposizione al TAV tra le tanti aspetti, tanti elementi ha anche in qualche modo creato diciamo una comunità, nel senso che quello che diciamo spesso è che in Val di Susa che la lotta oltre ad opporsi a un progetto nocivo nel corso di questa lotta ha ricreato dei legami comunitari sul territorio.
Alors au-delà de cette lutte contre de cette bagarre contre l'installation du train à grande vitesse, il y a une communauté qui s'est créée.
Oui, c'est la lutte qui l'a fait que de nouveau on a trouvé des espaces pour être communauté. On était une communauté opprimée, comme dans tous les Alpes, pour toute l'histoire qu'on a dans les Alpes des oppressions. Et avec la lutte, on est de nouveau arrivé à faire une communauté, ou à chercher de la faire.
Et quindi, diciamo, all'interno di questo processo di ricostruzione, di legami comunitari, di una socialità diversa, si è creata anche l'esigenza, noi abbiamo sentito l'esigenza di dotarsi anche di un'attenzione alla storia del nostro territorio.
Donc à l'intérieur de cette lutte, des liens sociaux de type nouveau qui s'établissent, du coup on a senti le besoin de se retourner vers notre histoire.
Perché appunto la storia del territorio delle Alpi, delle comunità che vivono le Alpi, è ricca di episodi e di insegnamenti anche utili per l'attualità, per oggi.
Donc l'histoire des communautés qui vivent dans les Alpes est riche d'enseignements pour mieux comprendre l'actualité.
Un esempio che posso fare è quello appunto della federazione degli Escartun, che è appunto un episodio della storia che siamo andati a ricostruire proprio per cercare di capire come può essere possibile immaginare un futuro diverso guardando al passato.
Alors, comment est-ce qu'on peut imaginer un futur en regardant le passé? Et c'est une idée qui est venue quand Tabor a publié ce livre sur les escartons.
Et che non vuol dire insomma che si vuole riprendere, che vogliamo tornare al passato, ma semplicemente vedere che lo Stato-nazione, il modo di, diciamo, di amministrare i territori che esiste oggi è solo uno dei tanti modi possibili che ci sono stati nella storia.
Ça veut pas dire qu'on a envie d'effectuer un retour sur le passé, mais simplement de remarquer que le mode de vie que nous connaissons maintenant est peut-être un mode de vie parmi d'autres et que peut-être dans ces autres il y en a qui sont intéressants.
Et appunto da quello degli escartoni è un esempio, altre ricerche che abbiamo fatto sono state su delle eresie, quindi sia abbiamo pubblicato una cosa su un'eresia di Fra Dolcino, che era, diciamo, un cristianesimo originario, diciamo una sorta di francescanesimo radicale, uno degli altri libri che abbiamo pubblicato. Questo su altri libri sempre su eresie, sono sulla storia dei valdesi, della resistenza valdese, sempre in Piemonte.
Alors, on a publié un autre livre sur une hérésie, Fra Dolcino, qui est une espèce de François d'Assise du Piémont, on peut le dire.
Ouais, mm-hmm. C'est plus radical.
Plus radical encore.
Ouais. Mm-hmm. Oui, on trouve qu'il parle de Dolcino aussi dans l'histoire de Dante, hein, dans l'Inferno, quand Dante il dit « Tu fais gaffe, Dolcino, que bon, tata », et que bon. Pour dire comme il était, aujourd'hui peut-être qu'il n'est pas connu, mais qui était vraiment une chose très importante. Et surtout Dolcino en Italie, il était aussi à partir, bon, du final de l'autre des deux siècles, de 1800, pour le mouvement ouvrier, était toujours un symbole. Hein. Il avait même fait un obélisque qu'il était beaucoup haut et qu'après les fascistes, ils l'ont détruit. Et après, de nouveau, dans les années 70, à partir de nouveau d'un mouvement révolutionnaire et ouvrier et d'étudiants, il était de nouveau fait de nouveau une obélisque. Et chaque année, en Italie, on fait une cérémonie, une commémoration de Dolcino. Et normalement, c'est fait pour était aussi un curé valdese, vaudois. Et bon, et différentes personnes qui, dans ce moment, ils font des luttes en Italie, qui viennent. Pour faire comprendre, parce que peut-être que sinon ici, on ne comprend pas l'histoire de Dolcino et Margherita, mais c'était une histoire très importante. Et bon, ils ont été pour 2-3 ans avec toutes les armées chrétiennes contre, c'était vraiment une croisade contre eux.
Et l'aspetto interessante, cioè che a noi interessava di quell'esperienza lì, non è tanto la questione, diciamo, ereticale in senso stretto, teologica, ma proprio l'incontro che si è dato tra il messaggio, in questo caso di Fra Dolcino, comunque diciamo di un cristianesimo primitivo, possiamo dire, pauperistico, e le comunità di montagna, l'alleanza.
Ce qui vous a intéressé, c'est pas tellement la question théologique de l'hérésie, pourquoi hérétique, pourquoi c'est une espèce de christianisme primitif.
Sì, originario.
Ouais.
E l'incontro, l'alleanza che si è creata tra quel messaggio e le comunità montanare.
Et donc la rencontre entre ce message de Fra Dolcino et les communautés montagnardes de l'époque.
Perché semplicemente Fra Dolcino, come tanti altri eretici di quel periodo, parlava di povertà, parlava di rifiuto delle tasse alla Chiesa e ai signorotti, parlava di uguaglianza tra uomini e donne, parlava della natura, parlava un linguaggio che era comprensibile, era lo stesso linguaggio della gente di montagna.
Voilà, il parlait à peu près le même langage que les communautés montagnardes, il parlait d'égalité homme-femme, il parlait de refus des impôts vis-à-vis de l'Église et puis vis-à-vis des seigneurs.
E quindi, adesso ho fatto questi due esempi, l'idea alla base è appunto quella di in qualche modo partire da un territorio, che è quello in cui noi viviamo, e dalle specificità di questo territorio, sia da un punto di vista storico, sia da un punto di vista di vita comunitaria.
Voilà, l'idea è di partire da un territorio con le specificità storiche, e poi di riflettere, e poi di revenire verso l'epoca. Adesso sarebbe interessante di sentire Nicolas,
sì,
per vedere come lui fa.
Je vais faire seulement une précision, une minute, parce que j'ai écouté avant qu'on commence, et c'était une différence entre nous et cet éditeur, ou des
le
autres éditeurs, que nous, on a décidé de ne pas participer, on ne fait pas de factures, rien de ça, on n'a pas les numéros marqués et tout, mais on est à l'intérieur d'un phénomène qu'en Italie, on appelle autoproduction. Mm-hmm. Mm-hmm.
Okay. Le monde à l'envers.
Oui, y a sûrement des choses à dire sur les différences, mais moi ce qui me frappe dans la présentation que tu fais, c'est que globalement, je signe, quoi. C'est-à-dire que nous, Le Monde à l'envers, c'est une structure éditoriale à but non lucratif qu'on a créée il y a 5 ans. On est grenoblois, alors à Grenoble, il n'y a pas une énergie, la même communauté qui a pu se former en Val-de-Suze autour de la lutte contre le TAV. Mais le fait est que nous aussi, on était partie prenante de lutte contre des grands projets délirants, contre la modification de notre ville, contre le fait que les pauvres se fassent de plus en plus virer des villes, enfin en fait la forme moderne de la lutte des classes, enfin comme ça peut s'incarner dans une ville comme Grenoble qui est tournée vers les nouvelles technologies. Et on était partie prenante de ce mouvement-là, et c'est autour de ça que nous on a créé notre maison d'édition, qui est une maison d'édition de lutte, qui a pour but de faire des choses autour des luttes sociales, c'est-à-dire de fournir de la documentation sur de l'histoire sociale. Ben ça s'illustre très bien avec les deux livres dont il va être question cet après-midi, là, les livres de Colline Picot sur l'immigration sicilienne à Grenoble et l'immigration maghrébine. Un côté histoire sociale, mais aussi un côté lutte sociale. Par exemple, il y a 4 ans maintenant, on a sorti le livre d'Henri Mora sur le projet de Center Parcs dans les Chambarans. Et là, depuis quelques mois, on publie une revue trimestrielle qui vient nourrir les réflexions et donner de l'information sur ce qui se passe autour de la contestation de ce projet. Où là, il y a un côté un petit peu plus activiste, quoi, pas juste de la documentation sur des vagues d'immigration. Par exemple, pour ce qui est des Siciliens, c'est globalement passé, quoi. Il y a un côté très actuel. Et on sort également des livres moins locaux. C'est essentiellement les petits formats qu'on fait, mais pas seulement, qui sont des livres de critique politique, qui sont des livres qui ont tout à fait autant d'intérêt à être lus à Brest qu'à Grenoble. Mais c'est vrai que le centre de notre activité, il y a quand même un truc ancré sur le territoire, et partir de là où on est, parler de là où on habite, parce que c'est là qu'on est, quoi.
Voilà. Vous tenez à peu près le même discours que Daniel et Maury, tiens.
Oui, oui.
Alors, moi, il y a une question que je me pose, c'est, vous avez parlé de autoproduction, la distribution, comment ça se passe de vos livres? Parce que vous dites des livres, vous n'avez peut-être pas un but d'une société capitaliste, mais il faut les vendre, ces livres. Comment est-ce que vous faites?
Je peux commencer. Nous, enfin, pour donner une idée, on est une association, donc... On est 5 dans l'association. En ce moment, on a une personne en contrat aidé qui nous aide, mais ça fait depuis pas longtemps et ça va s'arrêter bientôt. Donc c'est globalement une activité qu'on fait tout nous-mêmes bénévolement. C'est des tirages qui sont entre 1000 et 3000 exemplaires maintenant. Une partie des livres, c'est nous qui les fabriquons. Une partie, on les délègue complètement à un imprimeur, qui est par ailleurs un imprimeur militant, avec qui vraiment ça nous fait plaisir de travailler. Mais toute une partie des ouvrages, c'est nous qui les fabriquons entièrement avec du matériel qu'on a. De la mise en page à l'impression des pages intérieures, l'impression de la couverture, la reliure, la finition, voilà. Et pour la diffusion, on marche sur deux jambes. Une qui est le réseau des libraires, où on travaille avec une 60aine de libraires en France, je pense. Beaucoup dans la région Rhône-Alpes, mais aussi... quelques-uns à Paris ou dans quelques villes, des libraires particulièrement intéressés par ce genre de littérature. Et aussi avec un réseau militant. On fait des factures parce que sinon on ne comprend plus rien à ce qui se passe. Nos livres sont quand même suffisamment dissensuels. Ils ont un prix, ils ont un code barre. Et c'est un peu, je trouve, à ce prix-là qu'en fait ces objets, ils arrivent à circuler un petit peu largement, ce serait un grand mot, mais... au-delà de quelques cercles, quoi.
Noi abbiamo un distributore, tra virgolette commerciale, nel senso è un amico, un compagno che fa questo di lavoro, ha una piccola distributore per, diciamo, librerie di movimento, associazioni culturali, a cui diamo un tot di copie.
Alors, vous avez un distributeur qui est quelqu'un de militant pour des librairies amies, et c'est à lui que vous confiez vos livres.
Però il 90% delle copie le distribuiamo noi nelle iniziative, per fare un esempio, anche noi, tipo di Escartuna, abbiamo fatto 2000 copie, tramite il distributore ne avremmo vendute 100, le altre 1000 passa le abbiamo vendute noi ai banchetti o direttamente ai distributori in giro. Così.
Donc par exemple ce livre sur les escartons, il a été tiré à 3000 exemplaires,
2000
pardon, le distributeur en a vendu 100, le reste on l'a vendu dans différentes manifestations, repas, etc. etc.
Anche noi facciamo quasi tutto, nel senso la mise en page, tranne la stampa che stampiamo in una tipografia commerciale.
Oui, vous avez un imprimeur commercial.
Sì.
Beh, du coup, puisque tu parlais des différences, nous on s'appuie quand même beaucoup sur le réseau des libraires. Pour le coup, c'est pas du tout les proportions que tu dis de 100 qui seraient vendus par le distributeur, donc les libraires, et 1900 que... On a un réseau de libraires et qui n'est pas qu'un réseau de libraires militants, qui est plutôt un réseau de libraires locaux à l'échelle de la région, quoi, à l'échelle de la région Rhône-Alpes. Et on s'appuie beaucoup sur eux. Il y a quand même un certain nombre de libraires là-dedans qui nous suivent. Et que, en fait, c'est grâce à eux si ça marche, quoi.
Alors, si je prononce le mot de publicité, ou si vous préférez communication, comment est-ce que vous faites connaître, hormis les manifestations auxquelles vous participez?
Sì, noi principalmente appunto facendo banchetti, cioè tavoli alle manifestazioni, alle iniziative culturali, serate, concerti, e poi soprattutto con le presentazioni di libri o occasioni come questa. E poi abbiamo anche un blog, però non è che molto, preferiamo diciamo contatto diretto.
Voilà, donc vous exposez vos livres à l'occasion des manifestations auxquelles vous participez, c'est ça?
Des manifestations, des rencontres, et aussi beaucoup, ils sont des présentations. Alors, il va sortir un livre, et bon, et on fait, je sais pas, une présentation dans la Vallée, une présentation en Turin, Milano, etc., etc. Et bon.
Donc ça veut dire vous vous déplacez?
Ah oui. Oui.
Et vous vous déplacez où? Dans les librairies, là, cette fois?
Oui, non, ça dépend. C'est pas ça, nécessairement ça. Dans les librairies. Beaucoup de fois, il peut être bon, des librairies, oui, mais aussi des initiatives, comme on a dit tout à l'heure, contre le train, plutôt que des autres manifestations. Oui, que normalement, sont des manifestations militantes.
Refuge de montagne.
Ah oui, et aussi, oui.
Edicole di montagna, dei paesi, e spesso si fanno presentazioni.
Oui, alors cette revue, la Nunata, qui est distribuée beaucoup dans les refuges de montagne, dans les villages.
Et ça fait 10 ans qu'ils sortent. Ça fait 10 ans et aujourd'hui et demain, c'est l'anniversaire. Et dans les prochains mois, était l'idée aussi de le faire sortir un numéro dans le printemps en français.
Et pourquoi en français?
C'è un progetto di... sono stati fatti già 2 o 3 incontri, sia in Francia, sia nei Paesi Baschi, sia francesi che spagnoli. L'idea era di... siccome appunto sono 10 anni, ci sono tanti articoli che possono essere tradotti e riutilizzati, abbiamo diciamo lanciato quest'idea di se c'era qualcuno interessato a prenderli in mano, a iniziare una rivista di questo tipo, abbiamo fatto questa proposta qua e abbiamo già fatto 2 o 3 incontri, c'è stato abbastanza interesse, adesso ci sarà un altro incontro, si farà appunto questo primo numero pilota con un articolo nuovo e altri articoli tradotti da vecchi numeri della rivista, per poi vedere se parte un progetto così, che poi si chiami Nunatak o prenderà un altro nome, non è importante, l'idea era di costruire appunto uno stimolo per una rivista di questo tipo, che è appunto una rivista di storia, cultura e lotte della montagna. Gli argomenti sono un po' questi.
Alors, ce projet d'une publication en français, il fait suite à 2 ou 3 rencontres avec notamment le Pays Basque espagnol et le Pays Basque français, où vous avez fait cette proposition d'une version française, d'une revue qui s'intéresse à l'actualité politique, culturelle, sociale. Et cosa significa Nunatak? Voilà, alors Nunatak, c'est le nom d'un ensemble de montagnes du cercle polaire arctique. Ce cercle polaire arctique qui a enserré dans ses glaces différentes formes de vie. Puis là, maintenant, avec la fonte des glaces, on retrouve un certain nombre de ces formes de vie qui avaient disparu, c'est ça?
cioè simbolo della montagna come appunto di resistenza durante la glaciazione, anche una metafora della glaciazione attuale, no? Quindi la montagna come posto da cui ripartire, di resistenza.
Donc toujours cette idée, la montagne qui est un endroit où on peut résister, y compris aux glaciations. Volevo chiedervi, avete parlato di legami sociali di un nuovo tipo, per esempio nella lotta contro il TAV. La popolazione che è impegnata in questa lotta sono anziani, sono giovani. Allora, la popolazione che partecipa a questa lotta contro il train a grande vitesse, c'è una popolazione mixta, sono dei vieux, sono dei jeunes, c'è tutto il mondo.
Oui, dans la lutte notable, c'était tout. C'était des personnes, comme on dit des fois, quand on raconte que quand il a commencé la lutte, ça fait 25 ans hein, qu'on commence la lutte, étaient des personnes qui étaient nées, qui avaient 3 ans, 4 ans. Maintenant, ils ont 25 ans et ils sont encore dans la lutte. Son père et sa mère, qui étaient jeunes, et maintenant, ils sont déjà âgés. Bon, pour dire que vraiment, c'est toute la population, une bonne partie de la population. Quand on parle des manifestations qu'ils ont vues, 30 000 personnes, ça veut dire que vraiment, c'est toute la population. Et la chose était ça, quand on parle des nouvelles relations, bon, des relations différentes, qu'avec la lutte, on est arrivé à fermer la télévision et de nouveau à sortir dans la rue, à se rencontrer, à discuter ensemble et à partir de la lutte, à parler aussi des autres choses. Par exemple, des possibilités de faire des choses comme on allait les faire dans les montagnes, mais pas seulement dans les montagnes, mais je veux dire, nous on part dans les montagnes, dans la communauté. Alors par exemple, les fours pour faire le pain, en commun, dans la communauté, etc., et plusieurs autres choses.
Voilà, alors on va écouter un premier titre. On va écouter deux chansons, en fait, dans cet intermède musical, on va dire. C'est deux formes de lutte ou de questions, en fait. La première s'appelle « C'è chi dice che c'è un uomo ». Il y en a qui disent qu'il est un homme, en fait, ça veut dire « derrière toute décision ou tout acte, il y a un homme », mais la chanson, en fait, décrit le problème du manque de considération sur l'avenir, c'est-à-dire que ne pas penser l'avenir est problématique. Voilà le grand thème de la chanson, et surtout sous un angle écologique, on va dire là. Donc elle est interprétée par Grazia De Marchi et Claudia Ferronato à la voix, et accompagnée à l'accordéon diatonique par Roberto Tombesi.
Che c'è un uomo in ogni filo d'erba, e chi dice che c'è un uomo in ogni zolla di terra, chi dice che c'è un uomo nel riflesso di una perla, e chi dice che c'è un uomo dietro a una macchina da guerra,
e chi dice che c'è un uomo nel respiro dell'acqua, e chi dice che c'è un uomo nel sibilo del vento, e chi dice che c'è un uomo in ogni foglia che si stacca, ma non dice se quell'uomo è contento. Quando parli di tuo figlio faresti meglio a parlare di te. Quando parli del mondo faresti meglio a chiederti se ci sarà un mondo anche dopo che tuo figlio e te sarete andati e tornati, andati e tornati, andati e tornati, andati e tornati.
Dice che una donna è il sorriso dell'aria, e chi dice che una donna è la madre che perdona, e chi dice che una donna è una dea visionaria, e chi dice che una donna quasi sempre è più buona.
C'è chi dice che una donna
è il sostegno di chi prega e chi dice che una donna ha una forza che spaventa e chi dice che una donna ti guarisce e ti strega, ma non dice se una donna è contenta. Quando parli di tuo figlio faresti meglio a parlare di te. Quando parli del mondo faresti meglio a chiederti se ci sarà un mondo anche dopo che tuo figlio e te sarete andati e tornati, andati e tornati, andati e tornati, andati e tornati. Quando parli tuo figlio faresti meglio a parlare di te. Quando parli del mondo faresti meglio a chiederti se ci sarà un mondo anche dopo che tuo figlio e te. Quando parli tuo figlio faresti meglio a parlare di te. Quando parli del mondo faresti meglio a chiederti se quando parli tuo figlio faresti meglio a parlare di te. Quando parli del mondo faresti meglio. Quando parli tuo figlio faresti meglio. Ma ci sarà ancora un mondo?
Nicola, dans votre, l'intérêt que vous portez à la lutte contre ce parc de loisirs, à Center Park, ça vous vient d'où ça?
Ça nous vient qu'on était en contact avec Henri Mora qui, il y a 4 ans, nous a proposé de... En fait, non, bah, c'est nous qui lui avons proposé de sortir son livre. Henri Mora, c'est la première personne qui a commencé à s'opposer à ce projet, quoi, en allant au conseil municipal de Roibon avec des tracts. Et on lui a proposé à un moment de faire ce livre autour de cette histoire-là. Et on le raconte, là, on vient de rééditer le livre là, l'an dernier. On le raconte un petit peu dans l'introduction. Quand on lui a proposé de faire ce livre, c'était un petit peu bon, bah, c'est bien, il s'est passé quelque chose. Vous avez essayé de vous opposer, faut le raconter, quoi. Mais bon, on s'est perdu, on le sait, quoi. Puis ben en fait non, ce livre c'est pas juste un livre d'histoire sur une lutte qui s'est menée, quoi, mais il a en partie servi à alimenter la lutte. On se retrouve là maintenant 4 ans après avoir sorti cet ouvrage, et puis le projet actuellement il est bloqué à la fois par une occupation physique et par il n'y a plus d'arrêté préfectoral pour faire les travaux. Du coup, on avait sorti ce livre, et puis là, bah, vous avez donc suivi que l'an dernier, au même moment que les travaux de ce parc commençaient, il y a la police, la gendarmerie qui a tué un manifestant à Sivens avec une grenade offensive, ce qui a déclenché les débuts de travaux du Center Park de Roibon ont été bloqués. Et nous, on est allé un petit peu là-bas, puis on a vu l'énergie qu'il y avait, qui est quelque chose d'assez étonnant. Où pour le coup, alors, il y a un parallèle à faire avec la lutte contre le TAV. C'est-à-dire que c'est une lutte minoritaire. Il n'y a pas toute la population de ce bassin qui est contre, loin de là. Par contre, on y retrouve tout le monde. Enfin, plein de gens différents. Quoi. Ouais. C'est assez étonnant. C'est pas du tout un mouvement homogène, ni... idéologiquement, ni au niveau des âges, ni au niveau des professions. On se retourne et là, on voit quelqu'un qui n'a rien à faire là, bah, il est là. C'est étonnant. Et nous, ça nous a assez enthousiasmés. Et c'est pour ça que depuis l'an dernier, là, on publie cette revue trimestrielle. Parce que nous, ça se passe à Roibon. Moi, j'habite pas à Roibon, mais ça fait partie de ma région, quoi, de l'endroit où j'habite. On se sent concerné par ce qui se passe là. Et en plus, il nous semble que ça fait écho à des préoccupations beaucoup plus larges. C'est pas juste que ce projet, il est mal placé, il faudrait le déplacer de 2 km, ou alors il coûte un peu trop cher, ou alors le promoteur, il a un système d'évasion fiscale un petit peu trop bien élaboré. C'est que globalement, et là, ça fait vraiment écho à la lutte contre le TAV ou à la lutte contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Il nous semble que c'est des luttes contre la prédation de plus en plus importante du capitalisme sur les espaces gratuits, communs, naturels, bah, où des intérêts privés viennent justement privatiser ces choses-là pour faire de l'argent et pour éventuellement nous revendre les choses qui étaient gratuites avant, nous les revendre de manière dégradée. C'est un beau système. Bon voilà, le truc nous paraît tellement absurde qu'en fait on a envie de contribuer à ça, et ce qui fait que cette revue, bah, je pense qu'elle est intéressante à lire très localement, ça amène quelques éléments, mais aussi ça, on essaye que ce soit un objet qui fasse le lien avec d'autres histoires. C'est une sorte de condensé du projet éditorial du Monde à l'envers, on pourrait dire, où on sort des choses sur différents thèmes sociaux, et on pense que les mettre ensemble dans un même catalogue, ça peut les faire se répondre et créer une cohérence. Bon, bah là, avec la revue, on essaye ça aussi, quoi, qu'il y ait un côté d'alimenter la lutte et puis de réfléchir plus globalement au monde dans lequel on est, quoi.
Maurizio Daniele, un commento, un commentaire.
Oui, il me semble que l'histoire qu'il vient de nous dire, bon, il a beaucoup de choses comme les nôtres. Bon. Et je crois que vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment une chose dans laquelle faire des réflexions. Que des choses, entre guillemets, nouveaux, il arrive toujours du bas, il arrive toujours de ce que nous on appelle l'autoproduction, ou des petites maisons d'édition, plutôt que des grandes éditions et tout, qui vont publier des choses, pas seulement dans le côté des exploitations économiques, mais aussi idéologiques, pour faire passer des idées, hein, mais qu'au contraire, à partir des luttes, et qui aussi ils ont une chose en commun, qu'ils partout dans les territoires, bon, les choses qu'il arrive de dire, dans l'exploitation du territoire, de qu'est-ce qu'ils nous proposent de manger tous les jours, d'aller avoir au cinéma, etc. Mais ils vont sortir des nouvelles idées et tout. Et je crois que aussi, qu'est-ce qu'il est en train de dire sur la revue, avant on ne l'avait pas dit, mais Tabor, comme dans la revue Nunata, on ne parle pas seulement des montagnes dans l'Italie, on arrive de sortir des choses sur la Kurde, on a sorti, bon, etc., des autres choses.
L'importanza del... cioè perché è importante partire dai territori e parlare dei territori.
Mais pourquoi il est important de toujours repartir du territoire?
Io credo che sempre di più oggi è evidente che di fronte a quello che chiamiamo la globalizzazione, no? Sembrava aver cancellato le identità locali,
de plus en plus. Cette question de, il est important de pour résister, pardon, à la globalisation, à la perte d'identité, la notion de territoire est excessivement importante.
Sembrava che la globalizzazione avesse in qualche modo, no, uniformato e messo in secondo piano le identità locali. In realtà vediamo che sempre di più c'è un ritorno, no, di una ricerca dell'identità, delle radici.
Donc on pouvait avoir l'impression que la globalisation elle avait effacé un petit peu toutes les identités locales, et en fait c'est le contraire, on s'aperçoit qu'elles sont encore très vivantes.
E io credo che questo sia inevitabile, no, che ci sia questo attaccamento alle radici, ma può essere qualcosa di per certi versi anche molto pericoloso, no? È una cosa ambigua, può prendere strade diverse. Questo, cioè, l'abbiamo visto anche nel corso del Novecento, no? L'ideologia terra e sangue, cioè l'attaccamento al territorio può essere inteso in diversi modi, come un'identità chiusa oppure come qualcosa di aperto.
Ce retour vers la racine, l'attachement au territoire, il n'échappe pas que ça peut être quelque chose de très, très ambigu, ambivalent, ça peut être aussi quelque chose de dangereux.
Et il problema, io credo che, diciamo, la sinistra, tra molte virgolette, le forze rivoluzionarie o progressiste in generale, hanno sempre guardato con diffidenza, con paura a questo, no? Come qualcosa di réactionnaire,
ouais, alors la gauche, avec beaucoup de guillemets, qu'elle soit révolutionnaire ou qu'elle soit progressiste, a toujours regardé cette considération du territoire comme quelque chose d'un petit peu passéiste, pour se dire, et così.
Quello che è successo per esempio in Italia è che in qualche modo il monopolio di questa attenzione al locale, alle lingue locali, al territorio, ce l'hanno avuto forze di destra, no? Come la Lega Nord, xenofobe. E quindi io credo che proprio per questo, visto che questa questione dell'identità è comunque qualcosa di centrale, che non si cancella, sono spazi che vengono costruiti in modo aperto, no? Cioè un'identità può essere o chiusa o aperta. Se noi lasciamo questi spazi in mano alla Lega Nord in Italia o a forze xenofobe, reazionarie, fasciste, cioè credo che ci sia questo bivio, no? E in qualche modo questo è anche un tentativo di riempire questo vuoto che c'è stato, no?
Alors, jusqu'à maintenant, cet attachement au territoire en Italie, on le liait davantage à la Ligue du Nord, donc à toutes ces formations, organisations qui sont quand même très, très, très à droite. Et du coup, il y a un espace qui est laissé à votre initiative, par exemple, un espace de, justement d'exprimer le contraire de ce que dit la Ligue.
Le Alpi sono sempre stato un territorio di incontro, di scambio, di resistenza. Non è vero che sono simbolo di una civiltà chiusa, no? Sono voilà, state da sempre Alpes, il contrario, oui, proprio della chiusura. Oui.
Les Alpes ont toujours été un territoire de rencontre, de culture, tout le contraire de ce que développe, par exemple, la Ligue du Nord.
E quindi è importante riscoprire questa storia e questa nostra storia con un'altra lettura, no?
Donc découvrir l'histoire, découvrir notre histoire, mais avec une autre attitude, un autre regard.
Je peux peut-être prolonger. Voilà, nous on s'appuie pas sur l'identité alpine dans ce qu'on fait, mais le fait est que nous on part en effet de chez nous. Je sais pas, nous on emploie rarement le terme de territoire, qui moi je trouve ça a toujours un petit côté technocratique. Le territoire, je sais qu'on fait des choses sur chez nous, quoi. Puis chez nous, raconter ce qui se passe, raconter l'identité de l'endroit, c'est aussi raconter cette identité ouverte. Enfin, par exemple, pour comprendre Grenoble, il faut comprendre qu'il y a une immigration sicilienne très importante à Grenoble, ou les Maghrébins. Enfin, en fait, comprendre la ville de Grenoble comme elle est aujourd'hui, c'est pas juste se dire, en fait, le Grenoblois est par essence un Grenoblois qui, de temps en temps, est envahi de gens. En plus, à Grenoble, on serait quand même assez mal placé. C'est 14% de la population de Grenoble qui est née à Grenoble. En fait, c'est une ville de passage, c'est une ville ouverte, mais je crois que ça vaut pour toutes les identités. C'est les travaux de Gérard Noiriel, un historien du monde ouvrier et de l'immigration, qui montre bien ça, quoi. Comment l'identité, par exemple, de la France, en fait, elle est faite de tous les gens qui sont venus. Il n'y a pas les Français contre les autres. La France, c'est l'ensemble des gens qui sont venus et qui ont fait ce que c'est, quoi. Du coup, je pense qu'on est dans une conception de l'identité de chez nous, un peu comme ça. Ce qui peut parfois faire des frictions, des conflits avec d'autres parties de la gauche, parce que nous on se revendique, quoi, globalement, je sais pas, bon, gauche, c'est un mot un peu galvaudé, je sais pas exactement ce qu'il faut, mais on n'est pas de droite, quoi, ça je peux vous le dire. On est globalement dans une perspective d'émancipation individuelle, d'émancipation collective, pas mal de valeurs qui ont quand même plutôt été portées par la gauche, mais aussi sur un certain nombre de points, bah en fait on a des ruptures avec la vision dominante à gauche. La gauche, globalement, elle est progressiste, par exemple. Il y a une foi dans une espèce de sens de l'histoire, et il y a une assimilation complète du progrès technologique et du progrès social. Ce qui, là, moi, à l'heure actuelle, me paraît complètement délirant. Le progrès technologique, pour moi, va globalement à l'encontre du progrès social et des intérêts des gens. C'est discutable, hein, tout ça, mais pour dire que nous, on a cette ligne un peu en rupture avec la gauche, enfin, non, pardon, on a une ligne qui est en rupture avec pas mal d'habitudes qu'on a pris à gauche, quoi. On essaye de réinventer quelque chose, parce que la politique, globalement, aujourd'hui, c'est assez déprimant. Les mouvements émancipateurs, je trouve que là, ça marche pas très bien. Enfin, vous voyez le climat social en France depuis une dizaine d'années, et puis... Bon, globalement, le XXe siècle, je trouve pas que c'est... Bon, on a réussi quelques trucs, hein, mais je suis pas sûr que la situation... je trouve que globalement, c'est un progrès du capitalisme et pas particulièrement de l'émancipation humaine. Et on essaye, en fait, de réinventer des choses, de partir d'expériences concrètes, de creuser un peu des choses théoriques et puis de voir qu'est-ce qui peut en sortir pour réinventer des formes d'émancipation, quoi.
Alors, il y a une question que je meurs d'envie de vous poser à tous les trois. Vous parlez d'espace à occuper, vous parlez de redéfinir peut-être ce que c'est qu'une gauche qui serait ouverte à toutes ces problématiques, individus, etc., dans ses rapports avec la société. Est-ce que vous êtes optimiste ?
Moi, j'ai découvert l'an dernier que j'étais optimiste. C'est-à-dire que, bon, bah, quand je vous dis globalement le XXe siècle, on a perdu.
Oui, c'est un peu terrible, ça.
C'est un peu sombre, mais je crois qu'il faut partir de ce constat un peu sombre pour avancer, parce qu'en fait, si on croit qu'on est en train de gagner, enfin bon, il faut avoir une conscience lucide. Nous, c'est notre ligne éditoriale, hein. Il faut avoir un peu une conscience lucide de la situation pour construire des choses dessus. Et en fait, on est assez optimiste dans le sens où on se dit que notre action, notre faible action, hein, de 1, 2, 3, 4, 5 personnes. On n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens, on n'a pas d'accès aux médias. On a constaté que quand quelques personnes se bougent, ça peut avoir un impact sur la réalité, sur bloquer un projet, certes, mais aussi en fait faire avancer des idées. À dire vrai, je sais pas si je suis vraiment optimiste, mais je sais que quand on décide de faire des choses, ça a un impact sur la réalité.
Daniel et Maurizio.
Forse sì, nel senso che anche rispetto a quello che si diceva prima, no, a un'idea della storia, della rivoluzione novecentesca, secondo me oggi è evidente che quell'idea, no, della rivoluzione come un cambiamento in qualche modo contemporaneo in tutto il mondo, che sia la presa del potere o che sia la distruzione del potere a seconda delle visioni, e non è così che funziona la storia. E io credo che sia, se vogliamo, la rivoluzione è già qualcosa in corso, no? Quello che viviamo oggi, nel senso che c'è un processo di declino, di disgregazione della globalizzazione dell'impero, no? Come è stato il declino dell'impero romano, non è stato un crollo da un giorno all'altro, è un processo che è durato secoli. Io credo che quello che stiamo vivendo oggi è un po' questo, no? Sta finendo un certo tipo di civiltà e sui territori si stanno creando delle alternative che possono essere terribili, come sta succedendo in Libia o in Ucraina o da altre parti, oppure possono essere delle cose invece con delle buone prospettive, come succede in alcune parti del Kurdistan o in America Latina o in altri territori.
Provare, almeno provare. Donc, je vous ai entendu quand même au début, question, vous êtes optimiste, vous avez répondu oui, eu égard à tout ce qu'on a dit précédemment, mais con hésitazione. Eu égard à tout ce qu'on a dit sur le territoire. Puis après, vous évoquez l'idée d'un chambardement dans l'instant, là, maintenant, sur toute la surface de la Terre. Ça, c'est évidemment une utopie, un rêve, enfin, c'est impossible. Mais quand même, peut-être il y a des choses qui changent. Peut-être que cette globalisation, elle est quand même en train de commencer à se craqueler de toutes parts. Voilà, et en même temps, alors il y a, oui, effectivement, merci, il y a des événements terribles comme ce qui se passe dans le Proche-Orient et Libye, par exemple, et puis il y a d'autres choses qui sont plus positives.
Questi processi di disgregazione, di declino dello Stato-Nazione, è qualcosa che comunque ridà protagonismo alla gente, a chi abita i territori.
Oui, alors cette désagrégation de la notion d'État-nation, du coup, ça rejaillit, ça a des conséquences dans la prise de conscience de l'importance de l'individu. Alain, Renato.
Juste, vous parliez de la gauche et de mouvements, la gauche traditionnelle qui semble pas vous convenir, c'est ce que vous disiez. Et qu'est-ce que vous pensez des mouvements comme Podemos ou Syriza? Vous les situez où dans l'échiquier, on va dire. Puis la deuxième question pour nos amis, c'est la même pour les amis italiens. Tu parlerais un peu d'Ide Luca.
Qu'est-ce qu'on pense de Podemos ou de Syriza? Je ne sais pas. Si j'habitais en Espagne ou en Grèce, peut-être vous en parlerais. Je peux faire le parallèle avec le français, hein, Jean-Luc Mélenchon, qui veut construire des rafales et qui, quand il s'agit de draguer un public écolo, va dire qu'il est pour l'écologie. Et puis en fait, moi j'ai pas grande confiance dans cette autre gauche, enfin comment dire, plutôt non, le Parti Socialiste n'est pas de gauche, c'est pas un scoop que je vous livre. Les choses que je qualifie de gauche aujourd'hui, c'est Mélenchon, les syndicats un petit peu combatifs, mais je vous avoue que la plupart du temps je me reconnais pas dans leur discours, et pour autant c'est des gens avec lesquels on a des choses à faire. Alors si j'habitais en Grèce, je vous dirais sûrement autre chose, parce qu'en fait le contexte grec il est différent, le contexte économique, politique, il est différent. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut penser de ces mouvements là. J'ai pas une grande confiance dans le fait de prendre le pouvoir pour changer les choses. Et puis là, l'actualité grecque de cet été, j'aurais été au front de gauche, moi j'aurais vraiment déprimé, quoi.
Voilà, alors la deuxième chanson que je vous propose, cher Dominique, c'est une autre forme de chanson contestataire. d'experts, on va dire, ou prise de conscience, tout simplement. Et elle est chantée par Gualtiero Bertelli, qui est un des grands chanteurs italiens de la chanson sociale et politique. Pas assez connu, d'ailleurs, parce que tu connais bien, je sais, et il a fait des choses formidables. On va l'entendre, là, dans une chanson qui s'appelle Masti Signori. Alors, elle est chantée toujours pareil, en langue vénitienne. Je dis toujours pareil parce qu'il chante quasi tout le temps en langue vénitienne. Et elle explique, bon, elle parle de lutte, de grève, de chômage et d'opposition. C'est une chanson qui date, hein, de 1978, donc on était encore dans les luttes, avec les luttes de classe, on va dire. Et l'expression revient dans les propos de Bertelli. Mais bon, chômage, grève, problème d'emploi, c'est aussi actuel. Sauf qu'on n'est plus dans le même monde, voilà. Mais Gualtiero, qui chante toujours et qui chante toujours remarquablement bien, donc on revient à cette chanson, Masti Signori.
Da 30 giorni siamo de bando, pare diminution de personal. 23 uomini a casa fora, tutto un inverno senza lavorar. Masti signori, che adesso dice che da un bel tocco la guerra se finia, che i vegni a veder e a poesia, come che a spara, come che a copa, che i vegni a veder tra un timbro e st'altro, tra un discorso e un'inauguración, come sto popolo pien de maiani vive da cani morto de fame, e che noi venia a dir de pace finché se vive in sta maniera, che no ti pol neanche parlar, si noi te spara e te casa in galera, che voi coraggio dei disonesti a dir de pace in ste condizion, forse con gli altri e a se finia sta brutta guerra, ma no col paron, e che noi venia a dir de pace finché se vive in sta maniera, che non ti pol neanche parlar, si noi te spara e te casa in galera. Che vuoi il coraggio dei disonesti a dir de pace in ste condizion, forse con gli altri e a se finia sta brutta guerra, ma no col paron. La 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 la.
Henri de Luca, c'est un écrivain italien, je crois que c'est très connu aussi en France, qui, bon, il y a plusieurs années, il a donné sa solidarité à la lutte du mouvement notable dans la vallée. Et dans les dernières années, vis-à-vis à des actions que le mouvement notable avait fait, en particulier dans les particuliers, les mouvements notables, il a fait plein de choses, des pétitions, de tout. Il est arrivé à un moment de sa vie dans des assemblées populaires. Hein. C'est pas que trois personnes se sont rencontrées au bistrot et ont décidé ça. Dans des assemblées populaires, et même avec des citations de Gandhi, de Mandela et des autres pères de la non-violence italienne, à dire que des fois, c'est nécessaire le sabotage. Ça, il a dit le moment notable. Henri de Luca, après, il a pris cette citation qu'il avait dit le moment notable, que ça voulait dire, par exemple, aller où étaient ces chantiers qu'on a déjà cherché d'arrêter de toutes les façons, et l'arrêter aussi en coupant les murs, casser les murs, ou d'autres choses comme ça. Ça a été le sabotage, et de nouveau, n'était pas de faire. Pour ça, ils ont décidé de les porter plainte contre lui, comme c'est les choses qu'il va faire en personne dans la vallée, c'est pour qu'il a dit Ride Luca, que c'est vraiment en folie, un délire. Hein. Déjà, le sabotage, il était fait avant qu'Ride Luca allait le dire. Le sabotage, il est fait toujours dans le mouvement ouvrier. Déjà, quand on parlait de mouvement ouvrier, il est né avec les sabots qu'il allait aller mettre pour faire du sabotage contre les machines. Bon, alors, hein, c'est une histoire. Ride Luca, il n'était pas encore né et tout. Mais bon, pour dire la folie de cette histoire, et il était condamné pour qu'il avait dit que lui, il était d'accord avec le mouvement qu'il avait dit, bon, de faire du sabotage. Et pour ça, il était inculpé pour instigation au sabotage. Et je sais qu'il était aussi en manifestation qu'il va partir dans ces jours, et c'est du côté français.
Alors, avant de terminer cette, pour aujourd'hui cette table ronde, étant donné vos engagements respectifs aux uns et aux autres, est-ce que vous pensez ou est-ce que vous imaginez, on peut le dire, une réconciliation possible entre le citoyen et la politique, et quelle politique ? Avec des capitaux.
C'est à partir de notre... quello che facciamo è tutto, cioè, pensiamo che sia possibile una riconciliazione tra il cittadino e la politica, eccetera. Je crois que c'est un problème aussi des mots, perché pour moi dire un mot di riconciliazione pour se comprendre entre la citoyenne e la politique, je dis non. Ma on doit dire qu'est-ce que c'est la politique. C'est la politique, c'est les choses qu'on a dit, c'est la communauté humaine, c'est être ensemble et tout. Oui, et c'est déjà dans les faits qu'il arrive ça. Et c'est pour ça que moi aussi, bon, avant quand il parlait de Podemos surtout, bon, je sais pas, je suis pas en Espagne, mais c'est pas la chose que je crois aujourd'hui, bon, c'est utile, c'est nécessaire. On voit plutôt des choses petites et après... Sinon, on retourne de nouveau d'une façon différente, mais la concession qu'on va prendre le pouvoir de l'État ou qu'on va détruire, qu'est-ce qu'il a dit Daniel tout à l'heure, on rentre de nouveau dans la même idée. Et je crois que c'est qu'est-ce qu'on cherche de faire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils font plusieurs personnes dans le monde. Je crois que c'est vraiment une chose un petit peu différente dans les mots, bon, de la presse et tout, de la politique.
Oui, c'est ça, c'est une question de qu'est-ce qu'on appelle politique. Nous, par exemple, je sais pas, on n'a jamais particulièrement dit qu'on faisait de l'édition politique, on fait de l'édition liée aux luttes sociales. Et comme on croit pas particulièrement dans le jeu électoral, et puis tout ce que ça draine autour, hein, c'est pas juste que... Ouais, bon, toute cette conception, comme tu dis, là, de prendre le pouvoir, bon, pourquoi pas, enfin, pour... je sais pas, on n'est pas là-dedans, à dire vrai. Et du coup, quand on s'intéresse aux luttes sociales, ben... on est avec des vrais gens qui sont ce que vous appelez des citoyens là. On est avec des gens, on fait des choses et en fait on fait des choses en partie pour notre intérêt personnel parce que et puis en fait aussi il y a une vision un peu plus large et puis c'est ça la lutte quoi. C'est un moment où ça se rencontre quoi. C'est des espèces d'intérêts universels, des choses dans lesquelles on est. Mais nous, ouais, on se passe pas sur ce que dans les médias en général on appelle la politique. C'était quoi la question ? Est-ce qu'on croit à une réconciliation
possible entre
Y a des mouvements sociaux encourageants. Après, n'est pas Jacques Attali qui veut, donc je.
Merci Daniel et Nicolas, Maurizio. Peut-être qu'on se reverra dans 2 ans pour continuer l'échange. Merci.
Voilà, alors merci Dominique. Donc on se retrouve dans une prochaine émission le mois prochain, toujours sur 97.1. Au revoir à tous. À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animé par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.